Je vous propose de poursuivre notre conversation débutée lors des deux dernières émissions et consacrée à la glossalie ou dongyang. Examinons un peu plus en profondeur les textes dans lesquels il est question de parler en langue. En 1 Corinthiens 14, 22, l'apôtre Paul dit « Les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. » D'après Actes 10, 44 à 46, les gentils de la maison de Corneille qui avaient reçu les dons spirituels miraculeux se mirent à parler en langue et à glorifier Dieu. Les frères juifs qui accompagnaient Pierre furent étonnés, car ils les entendaient et de toute évidence les comprenaient, tout comme ceux qui avaient entendu et compris les apôtres parler en langue le jour de la Pentecôte. Il en pouvait être autrement, car comment auraient-ils su qu'ils glorifiaient Dieu? Ils parlaient un langage qui, bien que leur entente inconnue, n'en était pas moins compris par tous ceux qui étaient présents dans leur langue maternelle propre. Ceci constituait un signe qui confirmait la parole de Dieu. C'est ce que disent textuellement divers versets du Nouveau Testament, comme par exemple 1 Corinthiens chapitre 14, verset 22, « Les langues sont un signe ». Hébreux 2, 3 à 4, « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et des divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté ». Acte 14, 3, le Seigneur rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Les signes miraculeux qui comprenaient les langues n'étaient pas destinés à ceux qui possédaient les dons spirituels, mais aux non-croyants et à tous ceux qui écoutaient. Si chacun pouvait avoir le don miraculeux des langues, tout le monde devrait alors rechercher le don miraculeux de prophétie ou encore le don surnaturel de la connaissance qualifié par Paul de plus grand. Pourquoi, en effet, se contenter d'un don inférieur et ignorer celui qui lui est supérieur spirituellement parlant? Par ailleurs, si quelqu'un cherche à obtenir le don des langues pour une raison d'édification personnelle, de dévotion plus profonde ou d'inspiration, ne serait-il pas logique pour lui d'également rechercher le don miraculeux d'interprétation? Sans ce don, les paroles dites sont sans valeur lorsqu'on les compare à un langage clair et compréhensible. L'apôtre Paul le dit bien aux Corinthiens. Que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait ce que tu dis? Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Si le bénéfice retiré de l'utilisation du don des langues personnel est destiné à rapprocher un chrétien de son Dieu, on ne voit pas du tout à quoi servirait dès lors le don d'interprétation. Dans l'Église primitive, ceux qui parlaient en langue le faisaient dans des circonstances tout à fait particulières et par la puissance directe et miraculeuse du Saint-Esprit, parlaient pour le plus grand bénéfice des autres et nullement pour le leur. Jude, l'un des auteurs inspirés du Nouveau Testament, prouve que l'époque des miracles révolue lorsqu'il déclare à tous les chrétiens bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui était transmise aux saints une fois pour toutes. Cette affirmation ne laisse planer aucun doute quant à la révélation de la volonté de Dieu dans le Nouveau Testament. Elle est complète et n'a nul besoin de se prolonger dans le futur. La théorie selon laquelle des révélations supplémentaires et progressives sont nécessaires pour sans cesse adapter la volonté divine à l'homme est également condamnée avec vigueur par Paul lorsqu'il s'écrit dans sa lettre aux Galates « Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Durant le premier siècle de notre ère, des révélations aux chrétiens ont été faites par les disciples de Jésus. Ces révélations s'étaient vues confirmées par des signes et des miracles qui avaient été faits devant les chrétiens de l'époque. Et ces prodiges ne sont plus nécessaires aujourd'hui. Ils ont tout simplement cessé d'exister. Jude nous exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Cela signifie que la vraie foi, basée sur l'Évangile, n'a pas besoin de se renouveler, ni volonté de Dieu, et non à cette dernière de se transformer selon le temps, les circonstances et les êtres humains. Dieu n'a pas besoin de l'homme pour dicter sa volonté à ses semblables. Cette volonté a déjà été transmise une fois pour toutes à l'être humain par les apôtres de son Fils bien-aimé. Ces œuvres miraculeuses de l'Esprit-Saint n'avaient pas pour but d'être permanentes dans l'Église. Elles avaient au contraire été données pour en quelque sorte fortifier l'Église naissante jusqu'à ce que, comme le dit Paul, ce qui est parfait sera venu, c'est-à-dire jusqu'au moment où ce Nouveau Testament, contenant la révélation de la totalité de la volonté de Dieu, sera écrit. Après avoir exhorté les Corinthiens à aspirer aux dons les meilleurs, Paul ajoute, je vais encore vous montrer une voie par excellence. Parmi tous les dons dont était dotée l'Église de Corinthe, certains vont prendre fin, cesser, disparaître. Et l'apôtre fait même une comparaison lorsqu'il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, il parle certainement ici de la diversité des langues dont il vient de s'entretenir avec les Corinthiens, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, et ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don des prophéties, il est question ici de la parole de sagesse, le chapitre 12 et 8, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, et sans aucun doute s'agit-il ici de la foi miraculeuse dont il a parlé au chapitre 12 et au verset 9, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Dans ces versets, l'apôtre Paul donne une évaluation comparative des dons miraculeux et de l'amour chrétien. Et ce n'est pas sans raison. En effet, les dons de l'esprit sont transitoires, temporaires, partiels. Ils vont prendre fin, cesser, disparaître. L'amour, par contre, leur est de loin supérieur. Il ne périra jamais, dit l'apôtre Paul. Et le contraste est si évident. D'une part, il y a les dons miraculeux dont les langues font partie et qui vont disparaître, et d'autre part, se trouve l'amour qui, lui, est absolument indestructible. En fait, indiscutable, révélé dans les Écritures, les dons miraculeux de l'Esprit allaient devoir cesser. Mais écoutons plutôt Paul. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Les mots semblent ici soigneusement choisis. Prendront fin, cesseront, disparaîtra. Les prophéties, les langues, la connaissance surnaturelle s'entend, la connaissance allait cesser en même temps. Elles ont cessé. Et pourquoi? Parce que ce qui est parfait, non pas celui qui est parfait, parce que ce qui est parfait est venu. Le Nouveau Testament est maintenant complet. Le but des dons miraculeux était de confirmer la révélation de Dieu. L'Épître aux Hébreux le dit, que le salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et des divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Des signes accompagnaient la prédication de Jésus pour confirmer qu'il était bien le Messie. Des signes accompagnaient également le message donné par les apôtres. Il n'existe qu'un Jésus, qu'un seul collège d'apôtres et qu'un seul message divin destiné à mener une norme, c'est-à-dire le Nouveau Testament. Le premier est au ciel auprès de son Père et n'a plus besoin d'aucun miracle pour prouver sa divinité. Le deuxième a disparu avec la mort des apôtres qui, eux non plus, ne doivent plus confirmer leur apostolat par des prodiges. Le troisième, le message divin, est maintenant complet, à la disposition de chacun. Il a été écrit par les apôtres sous l'inspiration directe du Saint-Esprit. Il s'agit du Nouveau Testament. Aucun don spirituel n'est nécessaire pour confirmer sa véracité. Il est vrai que des hommes prétendront être des envoyés de Dieu. Les prodiges qu'ils feront risquent de tromper les naïfs, les trop crédules, les affamés d'extraordinaires. Le Seigneur l'avait prédit lui-même. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. La pratique du parler en langue n'est nullement aussi innocente que certains le prétendent, car elle est basée sur une erreur de la doctrine fondamentale du Nouveau Testament. cette pratique présente de très sérieuses conséquences théologiques. Premièrement, l'acceptation d'un langage miraculeux moderne conduit à la négation même du principe selon lequel les Écritures sont tout à fait suffisantes pour nous mener au salut. Si ce don vient de Dieu, ce qu'il révèle est une nouvelle révélation. Deuxièmement, il n'existe aucune ligne de conduite spirituelle définitive pour l'homme si Dieu révèle des messages divers à certaines catégories d'individus par le moyen d'un don de langue. Troisièmement, seulement une toute petite distance sépare le don des langues de l'acceptation d'une révélation continue et prolongeant les Écritures, comme c'est le cas dans certaines églises, dont celle des Mormons, pour ne citer qu'elle. Quatrièmement, une impression personnelle subjective par nature n'est nullement un critère garantissant la bonne direction à prendre en matière de foi. Tous les gens sincères sont persuadés d'avoir raison. Les bouddhistes, musulmans, spiritualistes, et les païens en général sont persuadés que leur religion ou leurs pratiques religieuses sont les seules bonnes. Et pourtant, l'usage d'une ou de plusieurs langues extatiques est monnaie courante chez eux. De telles expériences psychologiques ne garantissent pas que cette religion vient de Dieu. Je voudrais maintenant vous proposer de sérieusement réfléchir à tout ce que nous venons d'examiner ensemble. Essayez de voir clair en vous-même et de vous poser une question très importante. Où en suis-je par rapport aux dons spirituels en général